Pax et bonum, paix et tout bien, mes auditeurs, Nicolas ce micro. Nous nous retrouvons pour notre quart d'heure franciscain, découvrir la spiritualité de ce grand saint du frère universel François d'Assise. Nous le faisons à travers l'ouvrage de Julien Green, historien, Frère François, mis en audio par les éditions Saint-Léger. Et nous arrivons à une étape très importante, celle de la joie parfaite, de la perfetta laetitia. Bonne écoute.
La joie parfaite. Durus Ixermo. Le bonheur au-delà de tous les bonheurs, celui d'aimer Dieu et de se sentir aimé de lui, qui l'aura mieux connu que François d'Assise, et que de foi il l'aura enseigné à ses frères. Mais l'arrachement à la terre est indispensable. La fuite du monde et de soi-même, la fuite par en haut, cette évasion de l'âme, qui aura le courage de se jeter dans une aventure aussi hasardée? De retour de Rome, il vient à François le désir d'en parler à frère Léon, qui lui sert de confident, de secrétaire, de confesseur aussi. Qu'au moins celui-là comprenne que trouver d'abord la voie étroite, puis la suivre jusqu'à ce qu'elle mène au paradis, n'est pas une partie de plaisir telle que cela figure le commun des mortels. Dieu n'est pas accessible facilement. La page est aussi dure qu'elle est célèbre. On ne peut l'omettre parce qu'elle rend le même son que l'Évangile. L'entretien a-t-il vraiment eu lieu sur la route de Pérouse, ou François a-t-il dicté cette parabole à frère Léon près de Sainte-Marie-des-Anges? Il n'importe guère. Les voilà tous les deux, vraiment ou par l'imagination, sur cette route, marchant l'un derrière l'autre, Léon devant, François derrière lui, selon la coutume franciscaine que Dante nous décrit dans la Divine Comédie. Il fait grand froid, et tous deux en souffrent, surtout François, plus faible. Et voici que sa voix claire commence le dialogue inoubliable que nous abrégeons si peu que ce soit. Oh, frère Léon, quand même les frères mineurs donneraient partout un grand exemple de sainteté, là n'est pas la joie parfaite. Silence. Ils poursuivent leur chemin, puis de nouveau la voix s'élève. Oh, frère Léon, quand même le frère mineur guérirait aveugle et contrefait, sourd, muet, boiteux, chasserait les démons et ressusciterait les morts, là n'est pas la joie parfaite. Encore un bout de chemin, puis de nouveau dans l'air glacial monte la parole joyeuse. Ah, frère Léon, quand même le frère mineur saurait tout ce qu'on peut savoir, science, écriture sainte, prophétiserait, révélerait l'avenir et les secrets des consciences, là n'est pas la joie parfaite. Il sait très bien qu'en tout cela, il s'inspire de saint Paul parlant de la charité. Mais sous l'impulsion du Saint-Esprit, il ajoutera ce que saint Paul a omis. Peut-être frère Léon se demande-t-il où il veut en venir, et François veut qu'il patiente. Ah, oh, frère Léon, petite brebis de Dieu, c'était ainsi qu'il appelait son confident. Quand même le frère mineur parlerait la langue des anges, et que tout lui serait révélé sur les astres et les trésors de la terre et les vertus des oiseaux, des poissons, des hommes, des arbres, des pierres, là n'est pas la joie parfaite. Encore quelques pas, et François se met presque à crier. Ah, frère Léon, quand même le frère mineur convertirait tous les hommes à la foi du Christ, là n'est pas la joie parfaite. Voilà près de 2 kilomètres qu'il paraphrase saint Paul. Et Léon commence à se poser des questions car il donne de la voix à son tour. « Frère, je te prie de la part de Dieu de me dire où est la joie parfaite. » Et voici, si l'on ose dire, après l'énumération de ses grâces de choix, la douche fort inattendue. Arrivant à Sainte-Marie-des-Anges, tout trempé par la neige et glacé par le froid, il frappe à la porte du couvent où ils ont hâte de se sécher, de se réchauffer. Mais loin de leur ouvrir, on les accuse d'être des faux frères, des ribauds, des voleurs d'aumônes des pauvres. Qu'ils s'en aillent! Et ils resteront dehors dans la neige et le vent, mourant de faim jusqu'à la nuit, mais ils ne se plaindront pas. Ils ne maudiront pas le portier inhumain. Au contraire, ils penseront que lui seul sait à qui il a affaire et que c'est Dieu qui le fait parler si rudement. Et c'est là, frère Léon, la joie parfaite. Et si, persistant, il frappe de nouveau à cette porte muette, et que cette fois on ouvre et qu'on les chasse, qu'on les insulte et qu'on les gifle, et qu'on leur dise d'aller à l'hôpital, s'ils acceptent tout cela avec allégresse et charité, c'est là, frère Léon, la joie parfaite. Mais c'en est trop. Ils ont faim, ils supplient qu'on leur ouvre pour l'amour de Dieu. Alors on les bat avec un bâton noueux, on les tire par le capuchon, on les jette à terre, on les roue de coups dans la boue, et tout cela aussi ils le supportent en pensant aux souffrances du Christ. Voilà la joie parfaite. La voie étroite dont le Christ a dit que peu la trouvent, avant même de pouvoir la suivre, ils y sont. Ils se sont vaincus pour l'amour du Christ. Ils ont tout supporté. Ils ont accepté la croix. Le but est atteint. L'éternité bienheureuse leur sera ouverte. Sic transit. Le nom de Pérouse n'est pas sans intérêt dans le récit de cette quête de la joie parfaite. C'est en tournant le dos à cette ville arrogante que François et frère Léon vont partir à la recherche de l'absolu, et ce n'est pas par hasard que le saint a nommé cette cité dont il a de sombres souvenirs. Après le désastre de Ponte San Giovanni, il a passé un an dans les geôles papales de Pérouse, qui, bien que soumise au pouvoir romain, se distinguait par ses excès de toutes sortes. Symboliquement donc, les deux religieux fuyaient une sorte de petit enfer pour aller chercher un refuge à Sainte-Marie-des-Anges. C'est dire quel éloignement éprouvait François à l'égard de cette Babylone italienne. Le jour allait venir où il la maudirait. Mais bien avant cela, un événement sinistre devait y avoir lieu. On se souviendra du projet de croisade, la cinquième, que le pape avait si fortement à cœur de mener à bien. Mais il était urgent de réconcilier d'abord Pise et Gênes, qui devaient prendre part à l'expédition. Et surtout, il fallait à tout prix déjouer les manigances de Venise, qui, selon son habitude, essayait de détourner à son avantage l'itinéraire de cette croisade dont le but était Jérusalem. C'était à quoi allait s'employer Innocent III, le rapprochement des deux cités de la mer tyrrhénienne. Il résolut de se rendre à Pérouse le 1er juillet 1216, accompagné de la plupart des cardinaux, un peu plus d'une vingtaine, pour résoudre ses difficultés. Cela pouvait prendre du temps. Il avait alors 55 ans, mais des travaux accablants l'avaient prématurément usé. Jacques de Vitry, qui venait d'être nommé évêque d'Acre, voulut profiter de son passage en Ombrie pour recevoir sa consécration des mains du pape. Mais une surprise étrange l'attendait. Le 16 juillet, le pape avait été foudroyé par une embolie. À cause de la forte chaleur, on avait sans doute précipité le cérémonial, et il n'y eut personne pour le veiller dans la cathédrale dont on avait fermé les portes. Le lendemain, au petit jour, Vitry entra avec quelques membres de la curie et trouva Innocent III gisant nu et déjà nauséabond sur le pavement, seul dans l'église romane, sombre et massive, encore pleine de nuit. Crosse, tiare, vêtements précieux, tout cela avait été emporté par des voleurs dans l'obscurité. Dans une lettre restée fameuse, l'évêque français décrit cette horreur. « J'ai vu de mes yeux, » ajoute-t-il, « combien vaine, brève et éphémère est la gloire de ce monde. » Sic transit gloria mundi. Telle fut la fin de ce grand de la terre, auteur d'un traité sur le mépris du monde, De contemptu mundi, que la mort devait paraffer d'un commentaire si magistralement cynique. Thomas d'Eccleston, franciscain anglais du XIIIe siècle, affirme que François d'Assise fut présent à la mort du pape. Cela nous paraît improbable et n'a été relevé nulle part ailleurs. François, en effet, eût certainement voulu veiller le cadavre de celui à qui il devait l'approbation de sa communauté, comme les frères mineurs le firent plus tard pour Honorius III et Grégoire IX.
L'épisode de ce jour s'arrête là. Nous retrouverons Frère François par Julien Green avec les éditions Saint-Léger dans la suite de cette merveilleuse aventure franciscaine. François face au monde, Frère François. Et nous reprendrons donc avec la mort du pape Innocent III, le conclave à Pérouse. Vous verrez la suite comme François s'incarne aussi dans l'histoire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.